Et au menu de notre club des têtes au carré en ce vendredi, des tiques envahissantes, le sexe en bande dessinée et les orangs-outans du jardin des plantes. Je vous présente mes invités dans un instant. Et puis à la une de la science aujourd'hui, le voyage interstellaire complètement fou annoncé par l'astrophysicien Stephen Hawking. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu. L'ambition de ce projet est complètement folle en effet. Atteindre Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous en 20 ans de vol seulement. Alors gros coup de com ou réalité scientifique, on en parle dans un instant avec nos invités.
Voilà donc pour le sommaire de ce club réalisé par Stéphanie Texier et qui a été préparé par Emmanuel Fournier.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
L'éthique et la maladie de Lyme, le sexe en BD et les orangs-outans du jardin des plantes. Donc avec mes invités en studio, Roger Langlais et Philippe Brenaud. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue. Et puis par téléphone, le président du Muséum National d'Histoire Naturelle, Bruno David. Bonjour à vous.
Bonjour.
Roger Langlais, vous publiez donc chez Actes Sud avec Chantal Perrin l'affaire de la maladie de Lyme. C'est la première enquête en France sur cette maladie qui vient donc des tiques. On peut parler aujourd'hui d'une véritable pandémie mondiale.
Oui, une véritable pandémie mondiale. On est à plusieurs millions chaque année dans le monde de nouveaux cas. En France, on verra, les chiffres sont très sous-estimés.
C'est ça.
Puisqu'ils sont 20 fois en dessous l'Allemagne, par exemple, qui c'est pourtant vrai. Partage avec nous des forêts.
Ah, mais il y a une frontière quand même, on sait que l'éthique s'arrête à la frontière.
Voilà, c'est toujours le miracle français.
C'est comme des nuages radioactifs.
Voilà, c'est ça.
Et c'est justement ce que vous dénoncez, hein, c'est ce déni de la part des autorités.
Ce déni qui laisse les malades, du coup, errer médicalement et avoir des situations qui empirent, qui deviennent terrifiantes. Donc, alors que finalement les solutions ne sont pas compliquées.
Tour d'horizon donc de cette maladie avec vous dans quelques minutes. Bruno David, est-ce qu'il est possible que vos orangs-outans des jardins des plantes soient amenés à changer d'adresse bientôt ?
Oh, écoutez, on n'en est pas là du tout, hein, bien loin encore. Et je voudrais vous parler de l'actualité, un petit peu de ce qui se passe dans la ménagerie. Alors il y a l'actualité tapir, bien sûr, et puis je vous parlerai également des futures conditions d'accueil des orangs-outans.
Très bien.
Je pourrais vous rassurer les auditeurs sur
pour
ce
prendre
sujet.
On prendra des nouvelles de Nénette, la Jeanne Calment, hein, du Jardin des Plantes.
Oui.
Voilà, Philippe Brenaud, votre histoire de la sexualité en bande dessinée vient de sortir. Elle fait déjà grand bruit. Alors comme ça, Cléopâtre a inventé le vibromasseur.
Ah oui, ça c'est quelque chose qui est absent de tous les livres d'histoire.
Vous savez, trouvé où ça ?
Ah, c'est une vraie. Tout est vrai dans ce livre.
Ouais.
Je l'ai trouvé. Hérodote en parle. Non, j'ai une source vraie, sûre.
Une source fiable et directe.
Une source fiable. c'est Cléopâtre elle-même qui me l'a écrit.
C'est vrai.
Bon. Non, ce livre est à la fois avec des anecdotes, mais montre la continuité et je crois nous fait prendre conscience de ce qu'est la sexualité à travers l'histoire des mentalités, parce qu'en fait on part de l'origine de l'humanité jusqu'à même 2200, on fait un petit peu de prospective et on va se rendre compte de ce qu'est la sexualité que nous vivons aujourd'hui par contraste avec toutes les périodes et qu'est-ce qui est de libéré aujourd'hui dans cette sexualité.
Bon, j'en ai pas fini avec le vibromasseur de Cléopâtre, je veux en savoir plus dans quelques minutes et je vous fais confiance avec Laetitia Corinne, vous sortez donc cette BD Sex Story. C'est extrêmement drôle et on en parlera donc avec vous dans quelques minutes. Les messages bien sûr des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. L'exploration interstellaire vers d'autres étoiles est-elle vraiment en marche à la une de la science aujourd'hui avec pour commencer la voix de l'astrophysicien Stephen Hawking.
Avec les faisceaux de lumière, les voiles de lumière et le plus léger vaisseau spatial jamais construit, dit le savant, nous pourrons lancer une mission vers Alpha du Centaure en une génération. Aujourd'hui, nous faisons ce bond dans le cosmos car nous sommes des humains et notre nature est de voler.
Voilà des propos tenus mercredi donc par l'astrophysicien britannique Stephen Hawking lors de la présentation du projet Breakthrough Starshot à New York. Un projet né dans le sillage du milliardaire russe Yuri Milner, soutenu par plusieurs fortunes mondiales comme Mark Zuckerberg de Facebook. Pour discuter de la science donc derrière ces gros sous, bien nous sommes au téléphone avec vous, Roland Lehoucq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien et puis dans ce studio avec nous, Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Roland Lehoucq, comment est-ce que vous avez réagi vous face à cette annonce ? Est-ce qu'il faut prendre ces gens très riches au sérieux ?
Alors d'abord on réagit en étant content, il y a toujours l'effet waouh quand on parle de voyage interstellaire, évidemment on se dit ouais super, on va pouvoir le faire, enfin on va pouvoir faire Star Wars ou Star Trek en vrai.
Ouais.
Bon évidemment on est très très loin de Star Wars ou Star Trek et puis c'est pas un projet qui va être facile à réaliser, là c'est quand on retombe un peu les pieds sur terre et qu'on comprend un peu les difficultés techniques qui vont se poser pour réaliser une chose pareille. Ce qui reste intéressant, c'est que c'est pensable, il n'y a pas besoin de physique extraterrestre pour tenter le coup, mais il y aura un nombre considérable de difficultés qui vont se mettre sur la route d'un tel projet.
Alors Philippe Ménarejouf, quels sont les véritables défis que se propose de surmonter ce projet ?
Le défi, c'est celui de la distance. L'étoile la plus proche qui est visée, là, c'est Proxima du Centaure, elle est à 4,3 années-lumière. Une année-lumière, c'est à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Et pour fixer un peu les choses, l'objet le plus rapide qu'on a envoyé dans l'espace et le plus lointain aujourd'hui, c'est Voyager 1, une petite sonde de quelques centaines de kilos, qui se trouve à 20,1 milliards de kilomètres, c'est-à-dire même pas un jour-lumière, 18 heures-lumière.
Ah, même pas un jour-lumière.
Non, peut-être dans notre vivant, on le verra, Voyager à un jour-lumière, mais ouais. Pour l'instant, on n'y est pas.
Donc 4 années-lumière, c'est de la folie pure.
4 années-lumière, c'est énorme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens, pas seulement ces derniers temps, mais depuis le milieu des années 60, qui imaginent d'autres formes de propulsion que celles qu'on a avec les fusées, pour essayer de franchir ces ponts infranchissables, parce que à la vitesse où on va, 50 000 à l'heure, etc. Mmh. Il nous faut 30 000 ans. Donc, ça va pas. Là, il
là c'est 20 ans. 20 ans.
C'est-à-dire aller à 20% de la vitesse de la lumière. Comment on fait, Roland Lehoucq, pour aller à cette vitesse ?
Alors, comme le disait Philippe, on peut pas y aller par les moyens de propulsion habituels, parce que les moyens de propulsion habituels, ils sont très puissants, mais ils durent peu de temps. Les fusées, les grosses fusées, leur gros booster dure quelques centaines de secondes, quelques 3-4 minutes maximum, et là, il faut se propulser longtemps. Et là, l'idée, c'est non pas de se propulser, mais de se pousser par la pression de la lumière. Vous éclairez une voile, qui est en l'occurrence un miroir, un vaste miroir, un très bon miroir. Vous éclairez cette voile avec de la lumière, et la lumière, en rebondissant, en étant réfléchie par le miroir, s'exerce sur elle, sur le miroir, une certaine pression, et cette pression pousse la voile comme le vent pousse la voile d'un navire. À la différence que le navire en question sera extrêmement léger, parce que la pression qu'exerce le rayonnement est très faible. Pour donner une idée, la pression du rayonnement solaire exercée sur un miroir à la distance de la Terre, qui serait à la même distance du Soleil que l'est la Terre, cette pression du rayonnement solaire est donc égale à l'équivalent du poids de 1 kg sur 1 km carré. Donc ce sont des poussées extrêmement faibles, mais si vous arrivez à les maintenir très longtemps, en éclairant longuement le miroir en question, vous avez une toute petite accélération, mais qui va s'incrémenter la vitesse, et de fil en aiguille, vous pouvez peut-être atteindre des vitesses de l'ordre de quelques pourcents, et eux prétendent jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière.
C'est un laser, c'est ça qui sera...
Actuel.
C'est un laser, donc, c'est ça, Roland Lehoucq, qui sera utilisé.
Oui, évidemment, il n'est pas question d'utiliser la lumière du soleil, parce que quand vous vous éloignez du soleil, la pression du rayonnement solaire diminue avec la distance, elle diminue même comme l'inverse du carré de la distance, 2 fois plus loin, 4 fois moins de pression lumineuse. Donc là, vous allez utiliser un laser qui va être dirigé sur cette voile, un laser très puissant. Ils annoncent 100 gigawatts, ce qui est quand même une puissance considérable en continu. C'est pas un laser qui va envoyer des impulsions, s'il va éclairer continuellement. 100 gigawatts, ça représente 100 centrale nucléaire. Ça représente 1% de la puissance mondiale que les humains utilisent tout le temps. Donc ça veut dire une puissance tout à fait considérable sous forme de lumière et qui va viser finalement la voile du petit vaisseau et l'éclairant en permanence, l'accélérant très doucement mais en permanence va lui permettre peut-être d'atteindre ses très grandes vitesses. Il y aura quand même un petit effet de distance. Le faisceau laser n'est pas parfaitement monodirectionnel comme on dit, il y aura une légère ouverture. Mais en tout cas, on va pouvoir gagner considérablement par rapport au rayonnement solaire si on utilisait la lumière du soleil.
Mmh. Imaginons, Philippe Ménarejouf, qu'on arrive à atteindre Proxima du Centaure à cette vitesse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire une fois arrivé ? On va pouvoir faire des photos et se les envoyer ?
Je me le demande parce que vu la taille du vaisseau annoncé...
C'est quoi ce vaisseau ?
Un timbre-poste. Ouais. C'est petit quand même. Hein
oui.
Pour reparler de voyageurs, pour communiquer avec nous à un jour-lumière, cette sonde a une antenne parabolique de 3,60 m de diamètre et elle nous envoie quelque chose comme 100 kilo-octets à la seconde. Donc c'est pas terrible déjà. Et c'est tout près. Hein. On n'a pas commencé le voyage. Donc comment un engin aussi petit... Déjà, va pouvoir communiquer ce qu'il voit. Alors après tout, peut-être qu'on peut imaginer faire comme les soviétiques au début, dans les années 50, qui bombardaient la Lune avec des boules en acier. Bon, il n'y avait pas de retour, mais on disait, youpi, on est arrivé. Mmh. C'est peut-être un premier pas, après tout. Mais en tout cas, que ces sondes-là prennent des photos ou prennent des données scientifiques et les envoient, déjà, c'est un premier problème. Mais on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il y a cette vitesse de 20% de la lumière, elle est considérable. L'espace n'est pas complètement vide non plus. Donc il suffira qu'on rencontre une poussière interstellaire un peu grosse sur le trajet et ça peut arriver. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Est-ce qu'il faut un bouclier qui va alourdir déjà le vaisseau ? On voit déjà des problèmes techniques se profiler. Mmh. Et puis une fois arrivé sur place pour prendre la photo, à cette vitesse-là, pas question de freiner et de se mettre en orbite. On ne fait que passer à une vitesse qui est bien supérieure à celle d'un boulet de canon.
Ouais. Roland Lehoucq, dernière question. Est-ce qu'il y a un intérêt scientifique à se rendre autour de Proxima du Centaure ?
Ah ben certainement, d'abord c'est l'étoile la plus proche, donc ça nous facilite la tâche, mais l'intérêt il est à la fois dans le trajet, on va traverser le système solaire, on va traverser le milieu interstellaire entre nous et Alpha du Centaure, on va pouvoir faire des mesures in situ, des choses qu'on est obligé, on ne peut pour l'instant que déduire du rayonnement qui nous parvient dans la cavité, ce qu'on appelle la cavité solaire, la zone, disons, dans le soleil où le soleil est dominant, la zone où le soleil impose sa loi d'une certaine façon, à la fois gravitationnelle mais aussi magnétique et aussi sous forme de la composition du matériau. Et puis c'est sûr que là, si on avait la capacité à faire des photos entre guillemets d'astres autour d'Alpha du Centaure et d'Alpha du Centaure elle-même et de les envoyer, de les renvoyer sur Terre, ce qui n'est pas gagné du tout, bien on verrait les choses directement, alors que pour l'instant Alpha du Centaure c'est un point brillant dans le ciel. Et puis les éventuelles planètes autour d'Alpha du Centaure, si on les détecte, on les détectera que indirectement, et avant de les voir sous forme d'un petit point infinitésimal dans le ciel, il faut encore progresser dans nos techniques d'observation. Et puis donc là on aurait des images, peut-être des continents, peut-être des choses, on serait vraiment sur place, mais pour l'instant, on en est encore loin. À la limite, si on envoie, comme disait Philippe, un objet là-bas, il faut ramener l'information. C'est bien joli d'envoyer des choses, mais après, il faut en ramener de l'information. Et ça, c'est pas non plus la partie la plus facile du projet.
Ah ben, il y a encore du boulot. Projet farfelu, mais
c'est toujours excitant.
Intéressant.
C'est certainement excitant, mais voilà, il faut mettre les bémols qu'il convient, tout en restant excité par le fait que quand même, on commence à envisager d'une façon, disons, relativement sérieuse, des projets interstellaires. Donc ça, c'est toujours très excitant.
Voilà,
c'est le début de quelque chose.
Et un petit projet à 100 millions de dollars quand même. Merci beaucoup, Roland Lehou, pour vos explications. Merci, Philippe Narejos. Bon week-end, Axel.
Merci, Mathieu.
Et on se retrouve lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une fourmi qui n'a pas peur du chaud, c'est la petite fourmi argentée du Sahara, qui peut endurer des températures extrêmes de plus de 50 degrés sans broncher. Des chercheurs de l'Université de Bruxelles viennent de percer son secret. Elle est quasiment le seul animal du désert qui reste actif durant le jour, et ce grâce à ses poils. En les observant à l'aide d'un microscope optique, les chercheurs ont découvert que leur forme triangulaire permettait une réflexion quasi totale des rayons du soleil, réduisant considérablement la chaleur transmise vers le corps. C'est également ces minuscules poils qui donnent à ces fourmis leur magnifique reflet argenté que vous pouvez découvrir en photo sur la page Facebook de la Tête au Carré. La saga des désherbants à base de glyphosate comme le Roundup de Monsanto continue. Les eurodéputés se sont opposés mercredi au renouvellement pour 15 ans de son autorisation. Par contre, il prolonge contre toute attente son usage pour cette année à des fins agricoles. Une décision qui va à l'encontre de la mobilisation citoyenne. Une pétition déposée par Havas avait recueilli plus d'1,5 million de signatures en faveur de l'interdiction totale. Et un sondage réalisé par YouGov indique que les 2/3 des habitants des 5 plus grands pays de l'Union étaient opposés à un quelconque renouvellement. Et puis pour terminer, la goélette scientifique Tara va reprendre le large le 28 mai en direction du Pacifique puis de l'Asie. Dans une conférence de presse tenue hier, le groupe Tara Océan et le CNRS ont dévoilé la nouvelle mission du navire français, étudier de manière originale et approfondie les récifs coralliens et leur évolution face au réchauffement climatique. Un voyage que vous pourrez suivre sur tara-expedition.net. Allez, notre club dans un instant, juste après Célassou et Reason. Bon début de week-end.
So she can come back to life, so she can come back to life, and won't feel sad.
Selassou à l'instant.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Voilà, on va parler de tiques envahissantes, du sexe en bande dessinée et d'orang-outan au Jardin des Plantes avec mes invités, donc Roger Langlais, Philippe Bruno et Bruno David. Vous nous rejoignez bien sûr sur franceinter.fr avec vos messages et toutes vos questions. Avant de parler de tiques et de sexe avec vous dans la dernière partie, Philippe Bruno, est-ce qu'on a attrapé beaucoup de petites bêtes avec la sexualité au fil de l'histoire,
hein? Oh ben oui, d'abord, il y a effectivement la grande histoire de la syphilis quand même, ça a été 500 ans. Et une chose qui n'a pas été tellement souligné. Lorsqu'en 1980-81 apparaît l'épidémie du sida, la syphilis vient d'interrompre ses méfaits dans la dernière décennie. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose de grave dans cet endroit.
On va parler donc de ces petites bêtes pour démarrer cette émission avec les tiques. Roger Langlais, vous êtes philosophe et journaliste d'investigation, spécialiste des questions de santé publique. Et donc avec Chantal Perrin, qui est réalisatrice et productrice pour la télévision, vous publiez ensemble l'affaire de la maladie de Lyme aux éditions Actes Sud. Donc c'est une enquête sur cette maladie transmise par les tiques et sur le scandale sanitaire qui se joue dans notre pays. Ça, on le découvre vraiment à la lecture du livre. Parlons d'abord de la maladie, parce que c'est une pathologie grave à évoluer. Évolution lente et qui touche donc aujourd'hui toute la planète. On le disait tout à l'heure, c'est une vraie pandémie mondiale. Des chiffres inquiétants, mais qui sont difficiles pour l'instant à vérifier.
On sent que les autorités sanitaires et politiques ont du mal à reconnaître, et on verra pourquoi, l'ampleur en fait de l'épidémie ou de la pandémie, puisqu'elle est effectivement elle est mondiale. Alors, maladie grave, oui, si on la soigne mal. Ou si elle n'est pas soignée.
C'est des prises à temps, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça.
Sinon, c'est relativement bénin, même s'il faut quand même suivre les choses. Mais si on intervient justement par un protocole médical conforme à ce qu'il faut faire, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que les médecins sont très mal formés à la maladie de Lyme. En France.
Comme à la sexualité d'ailleurs, Philippe. Ah, oui, décidément,
c'est la même chose. On se demande. Lyme et sexe, c'est pareil.
Alors bon, c'est la formation. C'est la formation. C'est pas la faute des médecins. Là, il y a un problème, on va dire, de définition de la formation des médecins. C'est dû en partie au fait que des autorités sous-estiment, voire sont dans le déni face à l'ampleur de cette maladie, à sa gravité. Donc rien ne va dans le domaine.
Vous citez un bactériologue français d'ailleurs dans le livre que vous avez rencontré à Strasbourg suite à un congrès aux États-Unis où on annonçait des chiffres très impressionnants justement.
Alors aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé en 2013. Donc, un grand congrès mondial a eu lieu au mois d'août et résultat, les autorités américaines ont reconnu d'un seul coup qu'ils n'étaient pas à 30 000 par an.
Mais à 300 000.
Mais à 300 000, on multipliait par 10. Et quelques temps plus tard, alors ça fait la une des journaux aux États-Unis, on a découvert cette ampleur effrayante, puis les conséquences, la gravité, donc, puisque c'est la plupart du temps, justement, ils ne sont pas diagnostiqués, donc pas soignés, etc., c'est la catastrophe. Et quelques mois plus tard, d'ailleurs, les autorités sont montées à 900 000. C'est-à-dire que là, on arrive dans des chiffres qui sont voisins, c'est assez drôle, assez intéressant, c'est que les États-Unis, on arrive à un chiffre énorme qui correspond aux chiffres aujourd'hui qu'on commence à reconnaître en Allemagne, c'est-à-dire de 1 à 1,5 million de cas nouveaux par an. Ouais. Alors qu'en France, on est à 27 000, 30 000 cas officiels.
Ce sont des cas nouveaux dont vous parlez.
Oui, bien sûr. C'est l'ampleur du phénomène qui est sidérant.
Alors, c'est dû en partie à la prolifération des tiques. Donc ça, c'est important. Au fait que les tiques sont de plus en plus souvent infestées. Aujourd'hui, 80% des tiques sont infestées. Il y a des co-infections. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la borrelia qui entraîne donc la fameuse maladie de Lyme. Mais ça devient...
La borrelia, qu'est-ce que c'est?
La borrelia, c'est la bactérie, en fait, qui a été identifiée comme à l'origine donc de ces symptômes. Et le problème, c'est qu'on a donc une co-infection, très souvent, et que les tests, alors, par contre, là, sont complètement déficients, en particulier en France, au point que beaucoup de médecins français, aujourd'hui de plus en plus, en fait, demandent la sérologie, enfin disent à leurs patients, tournez-vous vers les Allemands, aussi bien
incroyable.
Du point de vue diagnostic que du point de vue du traitement.
Donc certains Français partent, alors les Alsaciens en particulier j'imagine, parce qu'ils sont particulièrement touchés.
C'est comme ça que j'ai découvert au début, il y a quelques années, le professeur François Lallemand à la frontière m'appelle en me disant, on a un problème, là manifestement un gros problème, c'est que ici en France, on a des diagnostics à peu près 20 fois moins souvent que du côté de la frontière allemande, alors qu'on a la même forêt.
C'est ça.
Donc on en arrive à conseiller à nos patients d'aller se faire diagnostiquer en Allemagne. Et puis, même pour le traitement, on a des représailles. Les autorités françaises, caisse d'assurance maladie. Nous font des procès, des pressions insupportables, parce que ça représente toujours un alourdissement du budget, hein, de toujours bien soigner les patients avec des antibiotiques.
C'est toujours la faiblesse de la médecine en France, hein, puisque je suis médecin, c'est l'absence totale d'attitude de prévention.
Alors, on est complètement dans le problème, c'est-à-dire que la prévention en France est égale à zéro.
On soigne les maladies, on ne prévient pas.
Et on se préoccupe du trou de la sécurité sociale, en fait. On a une étude très comptable, c'est ce que vous racontez, par rapport à un problème qu'on ne prend pas du tout en compte. Hein.
Alors, c'est la fameuse source de pas mal de scandales sanitaires, c'est-à-dire une gestion à vue, une gestion comptable, en fait, de la santé. Donc, pas de prévention, parce que, comme on le rappelle, si l'État ne met pas de l'argent dans la prévention, c'est pas les labos pharmaceutiques, c'est pas les acteurs économiques qui vont le faire, puisque quand vous mettez 1 euro dans la prévention, le retour sur investissement, il est de 0 centime. Oui. C'est très simple. Et si l'État ne le fait pas, fait de la gestion donc à court terme, à ce moment-là, on va au-devant d'une gravité concernant cette maladie, mais beaucoup d'autres aussi, hein, une gravité extrême, et évidemment des dépenses de santé qui, à terme, seront absolument énormes. Parce qu'une pathologie qui se chronicise, qui s'aggrave dans le temps, qu'on n'a pas soigné, à l'arrivée, ça coûte énormément. On a des malades qui sont en fauteuil roulant, qui sont mourants. Enfin, vous voyez un peu le voilà. Oui. Et évidemment, on en parlera peut-être, une transmissibilité de cette maladie, puisqu'aujourd'hui, on découvre qu'elle est transmissible au fœtus.
Ouais. Hein.
Beaucoup de médecins conseillent de ne pas tomber enceinte si on a la maladie de Lyme. Et aujourd'hui, on a aussi un soupçon qui grandit, dont on parle là, sur la transmissibilité possible par le sang. Donc, on se retrouve là, puisqu'on découvre que la borrélie, enfin, les borrélies, pardon, eh bien, survivent dans le sang. Hein. Donc, il n'y a pas de dépistage des donneurs.
C'est ça.
Donc là, aussi, il y a un gros problème.
Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez affolant, c'est que vous dites, un jour, on se fait piquer, et puis, bon, le temps passe, on ne développe absolument rien, sauf que cette maladie peut se déclarer après des années, voire des décennies.
Voire des décennies, on a le même schéma qu'avec c'est une maladie neurologique à la base, hein, c'est-à-dire que ça peut atteindre le cerveau, on a des troubles cognitifs, affaiblissement de la concentration, irritabilité, on est vraiment dans la neurologie. Plus évidemment un retentissement plus connu, donc sur les articulations, éventuellement la moelle osseuse, et puis des syndromes tels que la fatigue intense qui vous paralyse complètement, qui vous met totalement hors jeu, avec tout ce qui peut suivre derrière, et malheureusement beaucoup de patients qui sont traités tout simplement avec des neuroleptiques, hein, comme s'ils avaient des problèmes mentaux, on soigne pas la cause, et certains sont même psychiatrisés, voire des enfants enfermés dans des structures psychiatriques, avec toute la culpabilité sur les parents, sur l'enfant qu'on traite de paresseux, etc. On cite des cas, on développe là des témoignages qui sont hallucinants, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation sanitaire là de déni et de méconnaissance insupportable.
Extrait d'un documentaire, quand l'éthique attaque avec un témoignage.
Je vais peut-être écouter votre cœur parce que...
D'accord.
Et sinon, il n'y a pas de... Pour marcher, il n'y a pas de faiblesse musculaire, c'est plus une fatigabilité.
Paradoxalement, les jambes vont mieux, c'est les bras...
Chez Johanna, la bactérie transmise par la tique a notamment atteint le cœur et le système nerveux central.
Merci. Je suis allée ramasser du muguet avec mes enfants en mai 2006. Je me suis retrouvée avec une tique que je n'ai pas vue au début, une toute petite tique. Je l'ai vue seulement au bout de 2 jours quand elle était gorgée de sang. Et je suis allée voir mon médecin. Il m'a dit que c'était une allergie à la piqûre d'insectes et que c'était une infection saisonnière. Et comme j'avais mal à la gorge, il m'a donné des cachets, des pastilles à sucer.
Voilà, on voit la gravité quand même de la maladie hein, dans ces différents symptômes.
C'est une maladie qui peut devenir extrêmement grave et qui souvent s'installe de façon insidieuse. C'est-à-dire qu'on a c'est le problème on a des symptômes qui apparaissent, qui peuvent être violents, qui disparaissent très rapidement. Du côté des articulations, on se dit peut-être que c'est l'humidité, c'est l'âge, etc., les rhumatismes qui sont complètement, on va dire, banalisés, alors que très souvent c'est cette origine bactérienne. On a une bonne cinquantaine de symptômes qui peuvent être là. Variants, etc.
D'ailleurs, dans votre livre, on a la possibilité de voir un petit peu les symptômes avec un questionnaire, c'est ça, qui a été réalisé, du docteur Horowitz.
Voilà, c'est le questionnaire aujourd'hui qui fait référence vraiment pour les médecins spécialistes et qui permet de croiser les symptômes et de comptabiliser à l'arrivée la probabilité d'avoir donc la maladie de Lyme. Mais là encore, c'est quand même une affaire complexe et malheureusement, c'est souvent les malades eux-mêmes hein, qui, dans leur recherche, quand ils ont encore l'énergie de pouvoir le faire, arrivent à plus ou moins se diagnostiquer, dire le médecin est vraiment passé à côté et donc ils arrivent à sensibiliser leur médecin, ou alors ils rejoignent une association. Il y a aussi aujourd'hui des associations qui commencent à être puissantes de malades qui font avancer le dossier, qui commencent à être reçus au ministère de la Santé. Mais
vous donnez tous les contacts, hein, d'ailleurs, dans l'ouvrage de ces associations, Service Écoute par exemple ou France Lyme. Combien de cas en France chaque année? Combien de nouveaux cas? Vous dites pour l'instant c'est quoi, 27 000 à peu
officiellement,
près
officiellement 27 000, 30 000.
Et 1,5 million chez nos voisins allemands.
Et voilà.
Il y a quand même un petit problème.
Alors, la reconnaissance officielle, le chiffre chez les voisins allemands, hein, c'est du côté de 200 000. Bon, c'est déjà, vous voyez. Ça n'a rien à voir. Alors qu'encore une fois, on a un biotope, enfin des forêts qui sont les mêmes. Mais les spécialistes aujourd'hui disent, c'est très simple en fait, l'érythème migrant, c'est-à-dire la rougeur annulaire hein, en forme d'anneau autour de la morsure ou qui se déplace sur le corps ailleurs, cet érythème qui est vraiment le symptôme, vraiment un des symptômes clés, c'est-à-dire on voit un érythème, il faut soigner immédiatement le malade contre Lyme. On fait même pas de sérologie, hein, même pas d'analyse du sang, directement. Donc ça, c'est ça le protocole officiel. Bon, il faut le faire. Mais l'érythème migrant apparaît une fois sur deux. Voire une fois sur trois.
Donc on peut avoir la maladie.
La moitié
sans avoir
donc des gens vont errer complètement parce que les médecins ne sont pas formés à reconnaître les autres symptômes.
Roger Langlais, Christine nous dit pour information, j'ai attrapé cette maladie à Paris, au parc de Bercy. Il me semble y avoir vu depuis quelques rares pancartes incitant à la précaution.
Donc alors c'est pas qu'en forêt. Alors on voit les premières pancartes, les toutes premières, je pense à la forêt de Sénart en particulier, envahie par les écureuils tamias que les gens rejettent dans la forêt, enfin qui sont des gros vecteurs. Aujourd'hui, on a ce problème, beaucoup de rongeurs, donc, enfin, les rongeurs prolifèrent. Le changement climatique, le réchauffement favorise aussi la prolifération des tiques. Hein, là, on a une des conséquences. Et le résultat, c'est qu'on a des tiques même aujourd'hui sur les aires d'autoroute, en bordure de route. Et non, on a finalement un biotope de tiques semblable à ce qui se passe aux États-Unis, avec aux États-Unis, à la différence de nous, des médias qui rappellent sans arrêt aux gens que quand ils s'arrêtent au bord des routes, par exemple, d'éviter d'aller dans les herbes ou de prendre des précautions.
Il y a même un mouvement mondial pour dénoncer le lobby américain. C'est en mai chaque année. Depuis 2013, une manifestation donc pour dénoncer ce déni. C'est
voilà,
très
exactement.
Intéressant.
Il faut savoir que le protocole officiel en France aujourd'hui, qu'il faut absolument revoir, en fait, il a été fixé par le lobby américain des assureurs privés. Hein, qui, évidemment, n'ont pas envie de payer des traitements. Enfin, voilà, on a tout.
C'est au cœur de cette affaire de la maladie de Lyme. Une enquête chez Actes Sud, question de santé avec Chantal Perrin. Roger Langlais, vous restez avec nous.
Préférais l'orage et dès qu'il faisait beau, c'était comme une ombre au tableau. Je voyais un naufrage derrière chaque bateau. Je préférais l'hiver, les couleurs de l'été. J'ai jamais pu les encadrer. J'étais le solitaire, le veuf, l'inconsolé. Oui, mais comme a dit le peintre à l'oreille coupée, avant de s'éteindre, avant de sombrer, mon amour, la tristesse durera toujours. J'aurais beau me teindre, porter son chapeau, quand tu viens m'étreindre, je n'y crois plus trop. Mon amour, la tristesse a passé son tour. J'aimais les natures mortes, j'aimais les clairs obscurs. Je peux plus les voir en peinture. Le diable les emporte, ils ont quitté mes murs. Tous mes Saint-Sébastien, mes croquis décorchés, je les ai rangés au musée. Je pensais que plus rien jamais n'arriverait. Oui, mais comme a dit le peintre à l'oreille coupée, avant de s'éteindre, avant de sombrer, mon amour, la tristesse durera toujours. J'aurais beau me teindre, porter son chapeau, quand tu viens m'étreindre, je n'y crois plus trop. Mon amour, la tristesse a passé son tour.
La tristesse durera toujours. La tristesse durera toujours. Ça me frappait beaucoup cette phrase parce que je me disais, mais ben, je croyais que c'était triste d'être un type comme Van Gogh. Alors je crois qu'il a voulu dire que c'est les autres qui sont tristes. C'est vous qui êtes triste. Tout ce que vous faites, c'est triste.
Comme a dit le peintre à l'oreille coupée, avant de s'éteindre, avant de sombrer, mon amour, la tristesse durera toujours. J'aurais beau me teindre, porter son chapeau, quand tu viens m'étreindre, je n'y crois plus trop. Mon amour. La tristesse a passé son tour. Mon amour, la tristesse durera toujours. Mon amour, la tristesse a passé son tour.
Voilà, ça vous plaît ça, Philippe Bruneau, hein?
Ah oui.
C'est Alex Baupin.
Baupin, voilà. Et je trouve ça magnifique.
Bah, ça s'appelle Van Gogh, voilà. Mmh. Pas d'histoire de sexualité de Van Gogh dans votre livre. Il y a
j'en
d'autres personnages très... Voilà. Ah bon, il y a des choses à raconter?
Oh non, la vie de Van Gogh est triste au niveau sexuel, mais on aurait pu... Vous savez, on peut parler de beaucoup de personnages, on évoquera.
Oui, Michel-Ange, par exemple.
Victor Hugo, George Sand, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites et qui permettent, à travers l'anecdote avec des personnages connus, de comprendre les mentalités de l'époque.
On va parler d'autres personnages connus pour tous ceux qui sont allés arpenter les allées du Jardin des Plantes. Avec vous, Bruno David, vous êtes par téléphone donc le président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors que se passe-t-il avec vos orangs-outans qui seraient menacés d'expulsion, comme le laissait entendre un article du Parisien mercredi? Vous nous avez rassuré déjà tout à l'heure en entrée d'émission. La situation n'est pas si catastrophique que ça. Qu'est-ce qui se passe exactement alors?
Non, ce qui se passe simplement, c'est que nous avons bien sûr des orangs-outans à la ménagerie et nous avons comme projet d'agrandir l'enclos pour permettre des conditions d'accueil qui soient meilleures que celles qu'ils ont actuellement.
Il y a de nouveaux critères aujourd'hui justement sur l'hébergement de ces animaux?
Alors ce qu'il faut que le public sache, c'est que les animaux ne nous appartiennent pas. Les animaux sont confiés à des parcs zoologiques qui les accueillent. Il y a des réglementations européennes, des réglementations internationales qui font qu'on doit se plier, respecter certaines normes pour l'accueil des animaux, et particulièrement des grands singes, ou de grands mammifères comme les éléphants, les lions et d'autres animaux.
Donc Nénette ne vous appartient pas.
Ces critères.
Les animaux ne
nous appartiennent pas directement, c'est-à-dire qu'ils font partie de protocoles ou de programmes européens d'échange qui permettent de préserver la biodiversité dans les meilleures conditions.
Alors pour l'instant, donc, quel est le problème? Il n'y a pas assez de place justement dans les cages? Vous avez combien? 3 orangs-outans, c'est ça?
Alors nous avons 3 orangs-outans pour le moment, mais pour vous dire qu'ils ont quand même relativement de la place, il est prévu que nous accueillions un nouvel orang-outan mâle qui devrait arriver d'Espagne dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que les programmes européens d'échange entre les zoos considèrent que l'accueil à la ménagerie est nettement satisfaisant puisqu'ils nous confieraient un quatrième orang-outan.
Mais c'est surtout vos femelles qui vont être contentes parce qu'elles sont 3, c'est ça? Il n'y a pas de mâle pour l'instant.
Il n'y a pas de mâle pour l'instant. Alors bon, il y a Nénette évidemment qui est très âgée. Je la compare souvent à la jambe calmant des orang-outans parce qu'elle a 47 ans, ce qui pour un orang-outan est une centenaire. Ce qui prouve aussi qu'on s'en occupe bien parce que... Sinon, elle serait morte il y a longtemps. Mais il y a 2 plus jeunes femelles, Théodora qui a 27 ans et Tamou qui est une très jeune femelle de 11 ans. Et donc, on va leur amener un mâle pour voir éventuellement ce qui se passera et accueillir d'autres orangs-outans.
Ça va être la fête, donc, au Jardin des Plantes. On va écouter un extrait de ce documentaire qui avait été justement réalisé autour de Nénette, extrait du film de Nicolas Philibert.
Moi, je veux savoir, comme soigneur, bon, vous les nourrissez, tout ça, mais est-ce que vous les lavez? Ça se lave comment, un orang-outan?
Jamais.
Comme ils ont des poils très longs, il n'y a pas des odeurs des fois, je ne sais pas.
Quel animal est?
Une baleine. C'est pas assez piccolo. Ah bah, comme à Paris, c'est la carte.
Les cartes, c'est
ça. Ça ressemble étrangement à l'homme.
Oui, hein.
Mais sauf que l'homme, ça a pas de... Enfin, ça a des poils, mais beaucoup plus petits.
Santa Baikansko, Aïsibirsko, Aérasisko, Romanol Chabot.
Comme une rentière, quoi, une rentière velue, victime de sa rareté. Elle est protégée parce qu'elle est rare, mais si elle était plus nombreuse, elle serait encore dans les arbres, j'imagine.
Voilà, Nénette est rare, effectivement, Bruno David, hein, parce que cette espèce, il en existe peu de spécimens maintenant.
Alors Nénette est unique en tant qu'individu, bien sûr. Non, de cette espèce, il en existe peu, parce que c'est une espèce qui vit dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, et ces forêts sont menacées de destruction, sont en cours de destruction pour planter des palmiers à huile. C'est pour ça qu'il faut éviter de consommer de la nourriture qui contient de l'huile de palme, d'ailleurs, entre autres raisons. Ça diminue leurs habitats, et il y a de moins en moins d'orang-outans dans la nature. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les orang-outans qui sont préservés dans les zoos, qui sont abrités dans les zoos, c'est à peu près 1000 individus. Ces 1000 individus représentent 99% de la diversité génétique de l'espèce. C'est-à-dire que les zoos offrent une alternative réelle, bien tangible, au maintien de la diversité de l'espèce. Et chaque zoo joue ce rôle en accueillant quelques individus. Et c'est aussi pour cela qu'il y a des échanges entre les zoos pour éviter les effets de consanguinité et pour faire en sorte que cette diversité génétique puisse être maintenue à travers l'ensemble de la population qui est accueillie dans les zoos.
Qu'est-ce que vous avez prévu là, Bruno David, pour l'avenir justement sur le fait d'abriter ces animaux? Il y a un plan d'agrandissement qui est envisagé?
Oui. Alors ce qui est prévu, c'est un plan d'agrandissement, parce qu'on peut toujours améliorer l'accueil d'animaux comme des orang-outans, comme des grands singes, et on a tous envie d'améliorer cet accueil. Donc ce qui est prévu, c'est un plan d'agrandissement de l'enclos pour qu'il puisse s'ébattre dans de meilleures conditions. Alors on a analysé deux projets. Le premier projet était de déplacer les orang-outans au parc zoologique de Paris, dans ce que les Parisiens appellent le zoo de Vincennes, qui dépend également du Muséum national d'histoire naturelle. Il fallait construire un enclos à partir de rien, c'était un petit peu compliqué, c'était surtout très cher. Et l'option qui est en train d'être finir d'étudier, qui va être, je pense, choisie, c'est d'agrandir l'enclos actuel, de le prolonger en fait par une sorte de grande volière, alors le terme est sans doute inapproprié pour des orang-outans, où il pourrait s'ébattre dans un très vaste volume qui monterait jusqu'à 15 mètres de haut. Et qui communiqueraient avec leur enclos actuel, ce qu'on appelle la singerie, par une passerelle transparente qui serait au-dessus de l'allée sur laquelle circule le public. Donc ça serait tout à fait spectaculaire et ça permettrait à ces orang-outans de s'ébattre dans un volume absolument gigantesque où ils seraient très très à l'aise.
Bon, sauf qu'il faut de l'argent et vous l'avez cet argent ou pas?
Alors pour le moment, on n'a pas cet argent.
Voilà.
Ça fait partie des soucis que nous avons et pour lesquels nous effectuons des demandes. Et on ne manquera pas d'ailleurs de faire appel au public en temps utile dès que le projet sera également plus avancé pour permettre d'offrir aux visiteurs de la ménagerie du Jardin des Plantes le spectacle des orang-outans dans un enclos à leur mesure.
Allez, les orang-outans. Et puis le petit dernier de la famille, très vite, Bruno David, c'est un tapir malais.
Alors le petit dernier de la famille, c'est vraiment, j'invite vraiment tout le monde à venir le voir. C'est un tapir malais, c'est-à-dire c'est un tapir noir et blanc qui a des couleurs de panda, mais qui n'est évidemment pas un panda. Un tapir qui est un herbivore de la forêt équatoriale également d'Asie. Il en reste entre 1500 et 2000 individus dans la nature, ce qui est très peu. Mm-hmm. Et nous en avons un, il s'appelle Tenga, il a un an et demi. Il est assez facétieux, il est très joueur, il adore la musique.
Et il fait 300 kilos.
Et il fait 300 kilos.
Donc c'est une belle bête.
Dans l'enclos, un petit peu dans tous les sens. C'est une bête assez sympathique et formidable.
C'est un bon gamin. Donc allez voir chez vous au Jardin des Plantes avec également donc les orang-outans. Merci beaucoup Bruno David.
Merci.
À je vous remercie très bientôt.
De votre accueil dans votre émission. Au
allez revoir. Dans un instant Sex Story, la première histoire de la sexualité en bande dessinée.
Talk about it, talk about it, talk about it.
Funky Town sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
Oh, ça fait du bien, ça.
Avec Mathieu Vida.
On va vous escorter, c'est plus pesant. On les escorte, on y va, on les escorte,
allez. Sur France Inter.
Voilà l'ouvrage que tout le monde s'arrache en ce moment, et pas sous le manteau, hein. On le planque pas justement, on assume d'acheter cette bande dessinée consacrée à la première histoire de la sexualité. Philippe Bruneau, vous en êtes l'auteur, vous êtes psychiatre et anthropologue, directeur des enseignements de sexologie à Paris Descartes, vous en êtes l'auteur avec Laetitia Corinne, il faut absolument citer son nom parce qu'elle a un talent fou, c'est la dessinatrice de cette BD.
Ah, puis plus que ça, parce
quel
que...
Quel boulot, elle a fait un boulot
c'est
formidable.
C'est plus que ça, on a travaillé totalement depuis, ça fait plus d'un an, avec Laetitia, et moi je crois que ce livre qui nous surprend nous-mêmes. Je crois que ce livre, c'est le produit de notre rencontre de deux générations différentes, de, moi j'allais dire, la douceur sensuelle de son trait, c'est absolument hallucinant, et qui est plein d'humour. C'est la rencontre de l'histoire des idées, de la connaissance, oui, et du dessin d'humour. Et très souvent, on avait nos gags qui se rencontraient. Ça donne ce mélange. Je crois qu'elle n'aurait pas fait quelque chose comme ça. Je n'aurais pas fait quelque chose comme ça. C'est cette rencontre qui a un côté, oui, magique. On en est totalement surpris.
Mais le sexe
surpris.
Et l'humour, ça va très bien ensemble. Parce ça qu'on on éclate de rire en lisant le livre. Mais vraiment, il y a des choses extrêmement drôles. Son trait est très drôle. Et cette histoire, comme vous nous la racontez, est extrêmement intéressante. D'abord parce qu'elle est scientifique.
Elle toute
historique.
Juste. Oui, toute juste.
Et puis elle nous détend.
Et puis alors il y a une chose. Je crois qu'il y a beaucoup de. Moi je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'anecdotes, de faits vrais que je n'aurais pas écrit, même avec des mots choisis. Tiens, je vais dire à l'antenne un mot qui n'a peut-être jamais été prononcé. Oh, peut-être sur France Inter. Mm-hmm. Par exemple la sodomie. On en parle
mon
pas souvent.
Dieu, oh, là, quel mot incroyable.
Bon, du temps où il y avait la censure, mais même ce mot n'est pas prononcé. Je l'écris difficilement dans un texte, et je raconte une anecdote de Botero. Botero, le grand historien de Babylone, et tout est juste, et on lit les cunéiformes comme on lirait de l'anglais, c'est une langue vivante. Et il raconte un type qui se promène, qui est là, qui, bien sûr, il est marié, puisque c'est l'amour libre, c'est libre pour les hommes, à Babylone. Sa femme magnifique est à la maison, avec les enfants, il passe dans une taverne, il est avec deux concubines, il passe, il se fait une prostituée, il voit en descendant une prostituée qui est en train, alors c'est mot à mot ce que racontent les textes assyriens, qui est en train de boire de la bière au chalumeau, c'est une longue paille, il arrive, il la pénètre, vous voyez, ça paraît même pas évident, parce que j'ai dit qu'il y avait autre chose, et bien le dessin de Laetitia, qui est somptueux, qui est drôle, fait que cette scène est amusante, elle est vraie, et elle serait, j'allais dire, indisible, inécrivable. Oui. Elle n'est pas facile à écrire. Et vous voyez, j'ai cité quelque chose qui est quand même pas évident, qu'on raconterait pas. Eh bien, cette case est d'une drôlerie, bon, et nous amène à penser, ben, c'est une réalité dont on ne parle jamais, on ne peut pas en parler parce qu'on n'a pas le décalage, comme disait Freud, du dessin d'humour qui vous fait une brèche dans l'inconscient, et on arrive à l'accepter.
C'est ça. Et à partir de quel âge, d'ailleurs, on peut lire, selon vous, cette bande dessinée?
Alors écoutez, on n'a pas pensé. Alors, c'est, en tout cas, c'est non, pas destiné
franchement...
aux ados, mais moi, je crois qu'il n'y a pas de problème. Effectivement, il y a beaucoup de nudité.
Il y a beaucoup de sexe en érection, par exemple.
Effectivement, nous on l'a oublié parce que ça fait si longtemps. Et puis alors c'est monstrueux parce que c'est 200 pages. On a commencé à écrire il y a un an et demi. Et puis on écrivait, puis on écrivait, puis ça donne 200 pages. Moi je crois que tout... Il n'y a pas de choses qui ne peuvent pas être lues.
Alors cette histoire, elle commence aux origines, c'est-à-dire en Afrique, évidemment, Afrique de l'Est. C'est là que la sexualité a commencé. Est-ce que c'est là qu'a commencé le sentiment même amoureux, Philippe Bruneau?
Oui, alors vous savez, c'est le chapitre qui m'a demandé le plus de problèmes. De formation, je suis psychiatre, je m'occupe des enseignements de sexologie, mais fondamentalement, je suis anthropologue, enseignant en fac de sciences. Et avec Pascal Pic, par exemple, chez Odile Jacob, il y a quelques années, on a écrit un livre sur l'homme et l'évolution, en essayant de parler de l'origine de la sexualité humaine. Et là, j'ai passé 3 mois sur ce premier chapitre pour arriver à décider, à faire des hypothèses. Je suis scientifique comme tous les anthropologues, mais là, je dois le communiquer à tout le monde et j'étais obligé de décider des choses qui ne sont pas décidées. Eh bien, j'ai dit, il y a 4 ou 5 choses qui caractérisent ce qui est humain dans la sexualité humaine. La disparition de l'œstrus, c'est-à-dire que les femelles n'ont plus de période de chaleur.
Donc, on peut s'accoupler tous les jours.
Ouais, alors on dit qu'elles sont disponibles tout le temps, mais enfin, c'est un peu, disons que elles peuvent faire l'amour quand elles le veulent, ça serait mieux. La deuxième chose, c'est la disparition de l'os pénien. Nous avons le plus grand pénis des primates, le plus solide, mais une absence d'os pénien, alors que le gorille, qui fait 2,20 m, a un petit pénis en érection de 4 cm, qui tient par un petit os.
Comment on l'explique? Comment on peut l'expliquer du point de vue de l'évolution?
Alors, je pourrais le faire, c'est-à-dire l'absence de compétition, par exemple, chez les gorilles, qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'un grand pénis, puisque de toute façon, ils ont les femelles, puisque c'est un harem, ils ont les femelles à disposition. Chez chimpanzés, où il y a de la compétition, il y a un grand pénis, toujours avec un os, ouais. Mais surtout, ce qui anime la compétition, les chimpanzés ont les plus gros testicules parce que chacun cherche à se reproduire.
Et alors, chez l'homme, du coup, comment on explique ça?
Alors, chez l'homme, bon, un truc entre les deux. Alors, ce qu'on... Bon, les hypothèses amusantes, mais non, qui ont été souvent faites, ça serait le désir des femelles qui aurait amené cette espèce d'énorme sexe à prendre sa forme actuelle. Ça serait la volonté des femelles. Moi, je crois à autre chose. Je vais vous donner l'hypothèse que j'ai dite un petit peu, mais pas trop. C'est que tout simplement, si vous n'avez plus d'os, vous êtes obligé de mettre la main. Et le pénis de l'homme, c'est un scoop sur France Inter. Hein. Je ne l'ai pas écrit comme ça. Ça oblige l'homme à mettre la main pour l'intromission. Est-ce qu'on peut s'intromettre sans main? C'est possible, c'est pas impossible, c'est très compliqué. Mm-hmm. Par contre, tous les animaux y arrivent parce qu'ils ont un os directionnel. L'os est directionnel. Et nous avons la main préhensile qui va le permettre. Et les deux dernières caractéristiques de l'humanité... Ce que vous disiez, Mathieu, c'est l'invention de l'amour. Il n'y a pas le sentiment amoureux. Il y a des prémices primates, mais c'est pas la même chose. Et le dernier, et qui est terrible, c'est la domination masculine qui va dominer cette histoire.
Ah ben ça, c'est toute l'histoire. Hein.
Et ça, c'est toute l'histoire. Ouais. Et c'est toute la difficulté que vont avoir les femmes à trouver une place, sauf chez nous, occidentaux, depuis quelques décennies.
Alors revenons quand même, parce que vous nous avez parlé tout à l'heure du vibromasseur de Cléopâtre, un vibromasseur très intéressant.
Ça vous
puisque,
intéresse.
Bah, oui, non, mais c'est amusant parce qu'elle l'avait rempli d'abeilles.
Bah, il faut bien faire.
Fallait faire vibrer la chose. Et donc elle l'a fait remplir d'abeilles. Ouais.
Alors Cléopâtre se faisait confectionner des cornets de papyrus comme on fait un cornet de frites.
Ouais.
En Belgique, il se faisait un cornet de papyrus dans lequel elle faisait enfermer des abeilles, le tout étant bien scellé, et elle se le glissait entre les cuisses.
Voilà. Mais elle racontait sa sexualité à tout le monde? Enfin, je veux dire, à l'époque,
c'est quelque chose qui c'est une anecdote authentique qui est racontée, que j'ai trouvée dans des textes. Je n'ai pas de raison d'en douter, mais c'est une anecdote authentique.
La contraception, ça naît aussi en Égypte?
Alors, la contraception en Égypte, c'est quelque chose qui est assez connu. Contraception, ils utilisaient des tampons faits de plantes, et on a testé ces plantes, elles ont effectivement des qualités hormonales contraceptives, mais il y avait tout un développement de la gynécologie en Égypte. C'est la seule période, je vais dire, dans l'Égypte où il y a une certaine égalité homme-femme. Mmh. C'est-à-dire qu'on considérait les femmes pouvaient être médecins. Par la suite, ça n'a pas été le cas.
M la maudite, alors ça aussi, il y a tout un chapitre sur M la masturbation, oui, évidemment. Il y a eu des choses terribles hein, quand même autour. Hein.
Bah, c'était terrible. La masturbation, d'abord, il faut savoir...
Les remèdes les plus sadiques ont été mis au point.
Voilà, mais il faut d'abord savoir que la masturbation, et vous savez, comme j'ai écrit mon éloge de la masturbation là-dessus, la masturbation n'est pas interdite par la Bible. Dans la Bible, ce qu'on interdit, c'est le crime donnant. Le crime donnant, c'est le coït interrompu. Et quand, au début du XVIIIe siècle, on veut interdire la masturbation, on ne sait pas trop comment le faire. Eh bien, on dit, si on l'appelle d'un crime qui est interdit, on va dire c'est l'onanisme.
Oui.
Les deux perdent du sperme, mais c'est pas la même chose.
Alors, à quel moment apparaissent les premiers interdits autour
1810, Bakers en Angleterre, c'est l'Europe du Nord calviniste. C'est une rigueur religieuse. Et ce que dit le grand historien Laker, le grand historien américain de la sexualité, je crois, je suis volontiers, c'est l'apparition du sujet au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on supporte pas que vont apparaître les sujets, les ados-sujets, mmh. Et on va essayer de persécuter la sexualité naissante. Ça s'arrêtera en 1950, ouais. Avec des choses terribles. On cautérisait le clitoris des petites filles, on attachait le sexe, c'était terrible.
L'homosexualité, elle est librement acceptée chez les Grecs ou pas? Ou ça, c'est une légende?
Non, il y a eu des périodes, par exemple, d'abord, on ne parle pas d'homosexualité dans l'Antiquité.
Le mot n'existe même pas.
Non, le mot existera à la fin du 19e, et notamment lorsqu'on condamne Oscar Wilde. Mais vous avez quelque chose d'assez étonnant. Il faut comprendre, et personnellement, j'ai compris des choses en écrivant ce livre et en reprenant toutes les mentalités. au cours de cette longue période de Babylone à aujourd'hui, ce courant-là, on se rend compte que les êtres supérieurs sont ceux qui peuvent pénétrer, et supérieur celui qui peut pénétrer, donc est inférieur ceux qui ne peuvent pas pénétrer, les femmes, les homopassifs, les prostituées, les esclaves. Et ces hommes supérieurs pénètrent n'importe qui, comme je viens de le raconter dans l'anecdote. Ce n'est pas de l'homosexualité, je pénètre, je suis supérieur, je fais ce que je veux. Et à partir de là, on va avoir des périodes qui vont plus ou moins accepter cela, mais en Grèce, on n'accepte pas que deux hommes soient entre eux, deux hommes adultes, non.
Il va y avoir un homme adulte et un homme jeune, oui.
Alors, et encore, c'était dans l'aristocratie athénienne, un peu moins à Sparte, c'est-à-dire que c'est la coutume de la pédérastie, qui est une coutume d'initiation, qui va faire que un jeune est initié par un homme qui est marié. Et lorsque il est pubère, ça s'arrête. Et lorsque ce jeune deviendra marié, il initiera un jeune.
Dans les dialogues de Platon, on a des,
Roger d'Anglais.
Des quasi-scènes d'homosexualité entre Socrate et d'autres. Et je pense aussi, ça me fait beaucoup penser à ça, je sais pas dans quel
livre,
là vraiment je suis impatient de découvrir ce livre, c'est l'histoire de la sexualité, on l'avait avec Michel Foucault, jusqu'ici.
Je suis pas le continuateur de Michel Foucault.
Voilà, alors donc je m'interroge sur les recoupements.
Alors c'est vrai aussi qu'il y a une acceptation par moment de l'homosexualité dans certaines phases, mais en général, ça va être contre les sociétés traditionnelles qui veulent du sexe fécond. On voit un petit peu à la Renaissance avec Léonard de Vinci, Michel-Ange, qui ont une vie homosexuelle, mais attention, ils sont prêts à se faire condamner.
Philippe Renaud, sexe avenir, pour terminer évidemment cette bande dessinée, un petit peu de prospective avec la stimulation cérébrale orgasmique qui sera possible. 2062, vous prévoyez la dépénalisation mondiale de l'homosexualité. Il y a un dessin très
drôle. Très drôle. On ne peut pas le commenter à l'écran,
absolument.
Il est extrêmement drôle.
Apparition de nouveaux virus sexuellement transmissibles, ça on risque de pas y couper, hélas. Et puis les humains augmentés à la sexualité totalement virtuelle. C'est-à-dire que l'acte lui-même charnel, on le verra comme véritablement une pièce d'antiquité.
Alors là, je reprenais ça, d'abord c'est pour faire une fin. On dit bien que tout cela, c'est de la prospective et de la fiction. Pas tellement de la fiction, l'orgasme cérébral, on le sait très bien, vous savez, dans les stimulations antidouleurs, eh bien quelquefois on provoque des orgasmes sans faire attention.
Et sur des prisonniers américains,
qui
se provoquent jusqu'à une centaine d'orgasmes par jour en appuyant sur un bouton.
Abominable.
Merci beaucoup en tout cas Philippe Bruno avec Laetitia Corinne, cette dessinatrice extrêmement talentueuse et qui
magnifique.
Nous fait rire. Sex Story, la première histoire de la sexualité en bande dessinée, c'est un carton total en ce moment. Déjà la deuxième réimpression en moins d'une semaine et c'est aux éditions Les Arènes. Et puis on lit également L'affaire de la maladie de Lyme aux éditions Actes Sud.